Dis-moi, ça t'est déjà arrivé d'avoir peur qu'on te rejette, qu'on t'abandonne ou même qu'on te critique?
Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, je te partage les trucs et astuces que j'utilise autant dans mon travail de prof de yoga et de méditation que dans ma vie personnelle pour vivre une vie créative et débordante d'idées, tout en sachant doser le tout avec un peu de clarté mentale et de calme intérieur. Je te fais part de mes découvertes du moment, je discute avec toi de la vraie vie, des défis auxquels on a à faire face en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde.
Salut, salut! Bienvenue sur l'épisode 154 du podcast Focus Squad. Aujourd'hui, comme tu as vu dans l'intro de l'épisode, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui m'a touchée pendant des années et dont je me suis sortie. Donc, c'est la peur du rejet. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te remercie tout d'abord d'être toujours aussi présente sur le podcast, de partager l'épisode à des personnes dans ton entourage. Donc, merci, on est de plus en plus nombreux sur le podcast Focus Squad. Alors, voilà ma petite, mon petit mot de remerciement du fond du cœur. Et j'ai envie de te raconter une petite histoire. En fait, l'histoire de Millie dans son adolescence, entre 12 et 17 ans, alors qu'elle était à l'école secondaire, dans une école privée du Québec, et qu'elle avait son petit réseau d'amis, et qui n'était pas la plus populaire de l'école, loin de là, et qui a passé incognito pendant des années, malgré sa personnalité colorée qui ne s'affichait pas encore à l'époque, hein, j'avais un grand manque de confiance en moi et j'avais une peur extrême de me faire rejeter parce que j'avais dans mon petit noyau d'amis des gens qui, en bon québécois, se faisaient écœurer, faisaient rire d'elle parce qu'on était juste des filles. Moi, ben, je me faisais pas écœurer, mais j'étais pas dans les personnes qu'on invitait dans les parties, j'étais pas dans les plus populaires, donc j'étais, comment on pourrait dire ça? Je passais incognito, finalement, bref. Et la peur du rejet m'a tenaillée littéralement pendant ces 5 années-là. Donc, je te dis pas que mon secondaire a été un calvaire. J'ai rencontré des belles personnes avec qui je suis encore amie aujourd'hui. 2 amies, entre autres. Une amie avec qui je pars en voyage à Vancouver dès demain. Je t'en reparle tout à l'heure de mon voyage à Vancouver. Et, ben en fait, j'ai eu envie, justement, de te parler du sujet de la peur du rejet, de t'expliquer, en fait, premièrement, de mettre des petits red flags sur les signes que tu vis peut-être avec la peur du rejet, sur les conséquences quand on vit avec le TDAH adulte et finalement de quelques astuces pour réussir à s'en sortir avec le temps. Donc, qu'est-ce que la peur du rejet pour commencer, pour mettre une base solide? La peur du rejet, on l'appelle aussi la dysphorie sensible au rejet. Puis, c'est une crainte intense d'être rejeté, critiqué, exclu, de faire rire de soi, que ce soit une peur réelle ou une peur perçue. Et ça, bien, ça se manifeste dans différents aspects de notre vie, que ce soit dans notre relation amoureuse, les relations sociales, au travail, donc ça peut vraiment toucher toutes les sphères de notre vie. Maintenant, j'ai dénoté ici quelques signes que peuvent allumer des lumières, en fait, par rapport à la peur du rejet. Donc, quelqu'un qui vit avec une hypersensibilité émotionnelle, comme bien souvent quand on vit avec le TDAH, on peut avoir des réactions émotionnelles super intenses si on se fait rejeter, si on se fait par exemple aussi critiquer, puis que ce soit encore là une crainte ou une parole qui est réelle, qui est véritable ou quelque chose qu'on se dit dans notre tête, hein, une espèce de petit scénario. Là, on peut se sentir en colère, on peut être bien fru en bon québécois, on peut être triste, on peut être déstabilisé, ça peut susciter plusieurs émotions en nous. On peut se sentir honteux, on peut se sentir coupable aussi, on peut se sentir humilié. On peut avoir justement de la difficulté à gérer ces émotions négatives-là. Puis qu'une petite phrase fasse « bang » une grosse explosion en dedans de nous ou à l'extérieur si jamais on vit avec l'impulsivité. Puis si c'est le cas, watch out parce qu'après ça, ben, ça peut entraîner une espèce d'effet boule de neige pour quelque chose qui n'était pas réellement, j'allais dire réellement réel. Véritablement réel. Le point numéro 2, et ça, j'ai vécu avec ça pendant ces 5 années-là au secondaire, j'étais constamment en hyper-vigilance. Je scrutais constamment les réactions des autres à la recherche de quelque chose qui pourrait me dire que oui, cette personne-là veut me rejeter ou veut rire de moi. Ou de mes amis aussi. J'interprétais de façon erronée des signaux sociaux en pensant que, ou en fait en voyant des signes de rejet, où est-ce qu'il n'y en avait pas. Puis aussi, l'hypervigilance, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on se préoccupe excessivement de l'image qu'on projette aux autres, en fait, de ce que les autres pensent de nous, finalement. Donc ça m'a tenaillé vraiment longtemps pendant ces 5 années-là. J'essayais, en fait, ça a fait que je suis devenue perfectionniste par rapport à mon image pour enlever tout signe que, ou tout, comment je pourrais dire ça? Tout petit indice qui pourrait faire en sorte que les autres pourraient rire de moi, en fait. Et je te dis que c'était quand même stressant. Parce que je me rappelle, dans un cours d'histoire, j'écoutais qu'est-ce que le prof disait d'une oreille, bien, plus on va dire vers en avant. Puis de côté, j'écoutais ce que les autres disaient autour, s'il y avait un party auquel je n'étais pas invitée. Puis, tu sais, puis dans le fond, ça n'avait pas nécessairement rapport, mais, bien, en fait, ça n'avait pas rapport tout simplement. Mais je vivais dans cette hyper-vigilance-là. Ensuite, le point 3, c'est que si tu vis avec une anxiété sociale, par exemple, tu as peur d'une nouvelle situation où est-ce que tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Tu as peur de te faire rejeter dans un party. Tu as peur de l'opinion des nouvelles personnes que tu vas rencontrer. Tu peux même en venir jusqu'à éviter des interactions sociales et à t'isoler. Tu préfères être toute seule que courir le risque qu'on te critique, qu'on rit de toi. Et si tu te sens inconfortable, gêné dans des situations sociales, ben ça peut être un signe que tu as peur du rejet. Ensuite, si tu as une faible estime de toi, et c'est chose que j'avais aussi pendant ces 5 années-là du secondaire, donc on peut se sentir indigne d'amour, d'affection, on peut se sentir indigne d'avoir des amis en fait. Entretenir des pensées négatives sur soi-même, comme quoi qu'on n'est pas à la hauteur, puis qu'on focalise sur nos défauts à la place de voir nos belles qualités puis nos belles forces. On peut avoir aussi tendance à s'auto-saboter, hein, à se dire qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas bonne, qu'on n'est pas belle, puis que whatever quoi, mais tu comprends ces espèces de petites pensées négatives à la con, là, qu'on peut avoir. Numéro 5, des comportements d'évitement. Donc, on ne veut pas prendre de risques. On a peur de l'échec et du rejet. On ne veut pas, par exemple, changer de travail, même si on est plus bien dans ce travail-là, parce qu'on a peur de ne pas réussir à l'autre travail. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur d'arriver dans une nouvelle gang de collègues, par exemple. On peut aussi procrastiner de façon excessive parce que justement, on pense qu'on ne sera pas capable de terminer le projet, que ce ne sera pas bien fait. Donc, Tant qu'à ça, aussi bien rien faire. On peut aussi, encore une fois, saboter nos propres réussites. Numéro 6, et ça vient aussi avec le TDAH. On a parlé d'hypersensibilité, mais on peut aussi parler de difficultés de gestion des émotions. Donc, on peut réagir de façon excessive à des stimuli négatifs comme l'exclusion, le jugement négatif ou encore la critique. Puis là, ça va venir susciter en nous toutes sortes de réactions émotionnelles intenses, comme je t'ai parlé au début. On n'est pas capable, en fait, de bien gérer, de prendre du recul par rapport à ces situations-là, qui peuvent être, encore une fois, je le répète, réelles ou non. On embarque là-dedans pieds joints, puis là, ben, ça fait ce que ça fait, finalement. Numéro 7, besoin excessif de validation. Donc, quelqu'un qui recherche constamment l'approbation des autres, les compliments des autres, qui a de la difficulté à prendre des décisions sans l'avis d'autrui. J'ai un exemple concret. J'ai une amie avec laquelle j'ai travaillé pendant 13 ans dans la compagnie d'assurance. Puis, cette amie-là, un jour, a dû changer son téléphone cellulaire. Et là, elle a fait littéralement le tour du bureau. Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais elle a dû demander honnêtement à au moins, sérieusement, 15 personnes, quel cellulaire, quelle sorte de cellulaire elles avaient, ou ils avaient, puis pourquoi est-ce qu'ils pensaient que cette sorte-là était meilleure qu'une autre. Imagine, au bout du compte, elle est revenue à mon bureau, puis elle a dit, ben, je suis mêlée parce que telle personne m'a dit ça, telle autre personne m'a dit un autre avis. Fait que finalement, c'est plus mêlant que d'autres choses. Mais j'avais trouvé ça vraiment drôle. Vraiment drôle. Quand elle avait vécu cette espèce d'insécurité-là, puis qu'elle avait fait le tour du bureau et qu'elle était revenue bredouille finalement. aussi, si tu vis de la dépendance affective, que tu te raccroches à ton conjoint-conjointe, ou encore que tu as peur de la solitude, tu veux toujours être entouré de personnes, ben ça peut être un signe aussi que tu as peur du rejet. Finalement, les relations interpersonnelles qui sont difficiles parce que tu as peur de l'intimité, tu as peur des relations proches, tu as peur de te confier aux autres parce que tu as peur de faire rire de toi, tu as de la difficulté justement à faire confiance aux autres, à t'engager, tes relations sont instables puis tu as tendance au conflit, bien ça peut être un autre signe que tu as peur du rejet. Donc là, outre tous ces signes-là, je ne vais pas te faire peur, mais on va parler des conséquences que ça peut avoir sur la vie d'un adulte, et pas juste, j'allais dire, un adulte qui vit avec le TDAH, mais tu peux tout vivre ça, que tu aies le TDAH ou pas, c'est juste que c'est plus exacerbé quand on vit avec le TDAH. Donc, tu peux souffrir d'anxiété sociale avec le temps. Donc, t'isoler, pardon, petite toux. Avoir des difficultés au travail, ça peut venir toucher aussi ta vie personnelle. Ça peut mener à la dépression, à beaucoup d'anxiété. Ça peut mener à une grande surcharge mentale, une grande fatigue mentale, parce qu'on essaie aussi de cacher les traits du TDAH hein, pour passer incognito. Si aussi tu es en hypervigilance comme j'étais, ben ça vient vraiment fatigant, ça vient vraiment brûler ton énergie, je te le confirme. Et il y a des gens qui ressentent qu'on est sujet en fait à la peur du rejet et qui peuvent vouloir venir nous manipuler. Et aussi, ben on peut vivre beaucoup de colère et de frustration. Ce sont toutes des choses qui peuvent survenir si jamais on n'adresse pas cette fameuse peur du rejet. Heureusement, si tu te sens concerné par ce que je viens de te dire, tout n'est pas fini, tout n'est pas perdu. Et ça ne veut pas dire que si tu ressens un ou deux signes ou symptômes de ce que je viens de te décrire, que tu as la peur du rejet aussi. Mais bref, comment s'en sortir finalement? Donc, la première des choses, c'est, comme d'habitude, toujours de prendre une pause, de s'auto-observer pour identifier c'est quoi la source de la peur. Donc, de réfléchir aux situations qui déclenchent cette peur du rejet-là, à ces pensées négatives-là qui l'accompagnent. Donc, identifier cette source-là de la peur va te permettre de mieux la comprendre puis de mieux la gérer. Donc, ça prend vraiment un grand moment d'introspection, un beau moment d'introspection, puis se regarder finalement en pleine face. Bien souvent, qu'est-ce qui ressurgit de ça? C'est la peur de ne pas être aimé, en fait, hein, la peur de manquer d'amour. Donc, c'est quelque chose que tu peux peut-être aller observer, en fait, hein, te demander si c'est ça vraiment la cause profonde. Ça peut être aussi une autre cause, mais bref, d'aller identifier la source de la peur. En numéro 2, bien évidemment aussi, c'est d'apprendre à gérer ses émotions. Puis je sais que ça a l'air facile à dire dit de même, je sais que ça va prendre du temps, mais ça s'apprend. Même moi encore aujourd'hui, même si j'ai travaillé beaucoup là-dessus, il y a des fois que j'ai encore des petites rechutes, il y a des fois que je sens encore que les émotions trop intenses vont venir, mais je suis maintenant capable de, encore une fois, prendre du recul, puis d'observer tout ça. Puis si, bien, les émotions trop fortes sont sorties, bien, c'est correct aussi. Puis c'est de se dire, bon, OK, j'ai eu telle émotion dans telle situation, puis de finalement relativiser la chose. Fait que bref, ça s'apprend à mieux gérer nos émotions. Puis moi, ce qui m'aide énormément, évidemment, c'est la pratique de la pleine conscience au quotidien. Je t'en parle d'ailleurs dans le programme Focus Masters, mon programme sur 8 semaines, en fait, pour t'aider à améliorer grandement ton attention. Et en fait, il y a un module consacré uniquement à la gestion des émotions. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, ce programme-là, il est disponible présentement en forfait sans accompagnement. Il y a une cohorte qui va venir à l'automne, mais pour l'instant, sans accompagnement, c'est disponible. Le lien, en fait, vers la page d'information va être dans les notes d'épisode. Ensuite, développer la confiance en toi. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille. Si je te rappelle, quand j'étais au secondaire, au lycée pour les Européens, je n'avais pas confiance en moi. Et avec le temps, j'ai été capable d'identifier mes forces, de voir que j'étais bonne dans des choses, que j'avais des réussites dans certaines choses aussi, que j'ai identifié justement mes belles qualités. Bien, évidemment, encore une fois, ça m'a aidé à améliorer ma confiance en moi, à faire fi des échecs que j'ai eus, parce que oui, j'en ai eu des échecs. Je dis faire fi. Retenir le message important de cet échec-là, parce qu'il y a toujours un message important, puis ça peut toujours t'amener ailleurs. Mais se baser en fait sur nos belles réussites aussi. Numéro 4, c'est de restructurer tes pensées négatives. Donc, changer ces espèces de petites pensées automatiques-là qui sont bien souvent erronées, liées au rejet, les changer pour quelque chose qui est positif. Donc, encore là, je sais que c'est pas toujours quelque chose qui est évident, mais c'est possible de transformer ces pensées-là par des affirmations positives. Puis d'aller plus loin aussi. Si par exemple, je vais dire, je ne suis pas bonne au tennis. Là, c'est un exemple que je te donne comme ça. Mais qu'est-ce qui me prouve que je ne suis pas bonne au tennis? J'ai jamais joué au tennis. Et là, je pourrais me dire, bon, j'ai peur de jouer avec mon amoureux parce qu'il va trouver que je ne suis pas bonne. Mais au contraire, peut-être que si je lui dis « Chérie, j'ai peur de jouer au tennis avec toi parce que j'ai peur de ne pas être bonne », peut-être que mon amoureux va me dire « Eh bien non, finalement, on va vraiment s'amuser puis j'ai envie de te l'apprendre ». Puis tu sais, de tourner ça vers le positif en se disant « Bien, là, tu dis « Bon, je ne suis pas bonne au tennis ». De un, je ne l'ai pas essayé. De deux, bien, je pourrais être surprise puis avoir du talent. De trois, je vais passer un bon moment avec mon amoureux, puis on va sûrement avoir des moments de rigolade parce que ça ne sera pas parfait au début. Donc, d'essayer de changer la phrase négative vers quelque chose de plus positif. Accepter le rejet comme une possibilité normale. Donc, oui, ça se peut qu'il y ait des gens avec qui ça connecte moins. Ça se peut qu'il y ait des gens qui te rejettent. Il faut regarder la réalité en pleine face. Mais après ça, so what? La Terre est tellement grande, il y a tellement de gens avec qui on peut connecter. Puis, quand je repense à ces années-là du secondaire, je me dis, ce que j'ai gardé de ça, c'est deux belles et formidables amitiés. Écoute, on est rendu à 43 ans, on est encore amis. Puis je regarde les gens du passé, bien, c'était pas des gens avec qui je connectais, que j'avais pas réellement d'affinité. Je sais pas pourquoi, en fait, je veux être amie avec ces personnes-là. Puis je dis pas que c'est des mauvaises personnes, loin de là. Mais avec le recul, finalement, bien, écoute, oui, ça se peut qu'on ait été rejetés, moi et ma gang d'amis. Mais c'est comme ça dans la vie de tous les jours. On peut pas être accepté de tout le monde. Puis ça rejoint, mon point numéro 6, c'est de s'entourer de gens avec qui tu connectes, justement. Des gens qui sont bienveillants, des gens avec qui tu te sens en sécurité, d'être toi-même, que t'as pas peur d'être jugé. Puis il en existe une quantité infinie sur la Terre. Alors, voilà mon petit message par rapport à ça. Et mon point 7, ça serait de s'exposer progressivement aux situations qui sont redoutées. Donc, commencez par des petites situations. Disons que toi, tu as peur d'aller à la rencontre d'une nouvelle personne dans des soirées, dans des 5 à 7. On va dire ça comme ça. Bien, peut-être que tu peux commencer à aller juste faire un petit tour dans un 5 à 7. Te dire, regarde, je vais être là un petit 20 minutes pour dire quelque chose. Puis finalement, peut-être que ton 20 minutes, il va se transformer en une demi-heure, une heure, parce que tu vas avoir rencontré quelqu'un, tu vas vouloir jaser avec, ou ton ami de longue date va avoir été là, puis là, vous allez avoir tellement d'affaires à vous dire, tu sais. Puis si tu rencontres personne après le 20 minutes, bien, c'est bien correct. Peut-être que la prochaine fois, tu te dis, bien, écoute, là, je me donne une petite heure. Puis peut-être que c'est pas ça la solution. Peut-être que c'est pas d'aller fréquenter des 5 à 7. Peut-être que la situation, c'est d'aller, prendre le thé dans un salon de thé ou de t'inscrire à, un atelier de tricot pour dire quelque chose. Puis ça va être ça, la façon de connecter avec d'autres personnes, la façon de sortir de ton isolement social. Donc, justement, essaie de te trouver des façons de commencer à ressortir de ta peur du rejet, mais tranquillement, mais en donnant des défis, par exemple. Donc, voilà. J'espère que ça t'éclaire un petit peu. Donc, si je te fais un petit résumé rapido des trucs pour se sortir de la peur de soi, la première des choses, c'est d'arriver à identifier la source de notre peur. Donc, à la regarder dans le blanc des yeux, cette peur-là, cette source de la peur-là, puis ça permet de mieux la comprendre, puis de savoir par quoi commencer pour l'adresser. Apprendre à gérer nos émotions, ensuite développer la confiance en soi, restructurer les pensées négatives par des pensées positives, accepter tout simplement que le rejet peut être une possibilité normale, puis que tout le monde s'est déjà fait rejeter un jour ou l'autre dans sa vie, s'entourer de gens bienveillants qui nous comprennent et s'exposer progressivement aux situations que l'on redoute. Donc, je te donne ici en rafale quelques petits conseils supplémentaires. Donc, la première des choses, c'est de pratiquer la compassion envers soi-même, d'accepter qu'on n'est pas quelqu'un de parfait et on ne le sera jamais, d'être patient, compréhensif envers soi-même et de mettre en lumière nos belles qualités, nos belles forces. De vivre aussi les émotions difficiles, parce que oui, ça va arriver, oui, on en a, les laisser aller, tout simplement. Deuxième chose, oublie pas de prendre soin de toi. Une bonne hygiène de vie, ça nous aide tellement à retrouver notre force, notre énergie, notre confiance en soi, que ce soit au niveau de l'alimentation, de la routine matinale, de la routine du soir, peut-être du sommeil. Donc, de l'activité physique, tout ça, ça aide à éloigner la peur et l'anxiété. Et finalement, bien, la pratique de la pleine conscience au quotidien, c'est vraiment une clé vraiment importante pour moi pour m'aider justement à ce que cette peur-là du jugement des autres ne revienne plus. La pleine conscience, ça permet de prendre ce moment de recul-là qu'on a besoin, qui nous permet d'observer, de relativiser les choses, de laisser aller les émotions, les sensations, de les observer, de mieux comprendre. Bref, je ne vanterai jamais assez les mérites de la pleine conscience pour tous les défis qu'on vit avec le TDAH adulte. Alors voilà, mot de la fin, la peur du rejet est surmontable. J'en suis la preuve vivante, tu l'as devant toi. Je t'ai donné quelques clés pour t'aider à t'en sortir. Laisse-toi le temps, mais en changeant les pensées dans ta tête, en relativisant les choses, ça va créer des nouveaux chemins neuronaux vers des pensées et une énergie plus positive. Si jamais, justement, tu veux sortir de l'isolement, si jamais tu veux tranquillement te mettre un petit défi, je t'invite à venir nous rejoindre sur le groupe du même nom que le podcast, le groupe Facebook Focus Squad. Donc, on est quelques centaines de personnes qui jasons ensemble du TDAH adulte. Donc, c'est un milieu qui est sécuritaire, qui est bienveillant. Donc, je t'invite à venir nous rejoindre. Tu ne perds rien, c'est totalement gratuit. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode. Je m'en vais, comme je te disais, à Vancouver avec mon amie du secondaire, ma belle amie depuis toujours. Alors, nous quittons mercredi, donc demain, et nous revenons en fin de soirée mardi. Il va être un peu trop tard pour moi pour enregistrer l'épisode de la semaine. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu vas recevoir une notification qui va t'indiquer le prochain épisode de podcast. Surtout que là, on passe une semaine là, sans se parler, sans se voir. Il ne faudrait surtout pas que tu m'oublies. Donc, en t'abonnant, tu reçois toutes les notifications nécessaires. Puis aussi, ben, ça serait cool si tu pouvais laisser un avis sur Apple Podcast. Comment tu as apprécié le podcast, un 5 étoiles. Encore là, je te le répète, ça aide au référencement. Ça aide finalement à aider plus de personnes dans le monde entier. Bon, hey, je te laisse là-dessus. Bonne semaine, en fait, bonne semaine. On se rejase très bientôt.